France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils sont en forme, malgré le fait qu'on leur ait dit au moins 50 fois dans la journée « Eh, mais t'es pas encore en vacances, toi ?»« Si, si, mais je reste au bureau, c'est moins cher. » Bref, rien ne les décourage et surtout pas une heure de discussion d'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Jonathan Boucher-Petersen, bonsoir,
bonsoir,
de Libération. Également Isabelle Verramasson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du laboratoire communication et politique du CNRS, Alexandre Devecchio, bonsoir.
Bonsoir.
Du Figaro et François-Xavier Bellamy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, essayiste et également président du mouvement Unis pour servir. Et ce soir, on parlera d'un gouvernement sous évaluation, centre de migrants et des mineurs dans tout ça, police, gendarmerie, le grand malaise. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Il est taillé comme une armoire normande, ancien commando marine, fan de rugby et nez cassé. On le verra peut-être dans les futurs blockbusters 58 minutes pour vivre avec la CGT ou la réforme dans la peau. Oui, Geoffroy Roux-de-Bézieux va faire parler de lui. Hein. Retenez bien ce nom, il a été élu ce matin à la tête du MEDEF, succédant ainsi à Pierre Gattaz. Le nouveau patron des patrons veut, selon ses termes, moderniser le MEDEF, dont l'image est assez dégradée dans l'opinion, puisque selon un sondage Opinionway réalisé en avril, 66% des Français interrogés ont une mauvaise image du MEDEF et 55% pensent que le MEDEF aujourd'hui ne représente pas correctement les entreprises françaises. Très combatif sous François Hollande, le MEDEF a un peu plus de mal avec Emmanuel Macron qui se définit comme pro-business, sans parler des petites sorties de route de Pierre Gattaz qui n'ont pas arrangé son image, mais allez, haut le cœur de l'entreprise, Taillot, Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Que certaines personnalités disent c'est difficile de vivre avec le SMIC net en région, enfin dans les métropoles d'ailleurs, mais en région parisienne, je le comprends tout à fait. Simplement, les entreprises ne pourront pas, si c'est une augmentation supportée par les entreprises dont les marges ont commencé à augmenter depuis maintenant 2 ans grâce au CICE, ne pourront pas le supporter.
Voilà, Geoffroy Roux-de-Bézieux aujourd'hui. Alexandre Devecchio, est-ce que le MEDEF est toujours puissant ou pas aujourd'hui?
Je pense que le macronisme a été, pour le coup, un phénomène de dégagisme des partis politiques, mais aussi des corps intermédiaires. Donc, il est, à mon avis, le MEDEF est affaibli, comme les syndicats ont été affaiblis d'une certaine manière. Après, il reste puissant parce que c'est une organisation patronale avec des entreprises qui pèsent. Moi, ce que je trouve plutôt intéressant, c'est qu'on a, à mon avis, on a deux caricatures en France. D'un côté, la CGT et de l'autre côté, le MEDEF avec toujours les même vieille recette néolibérale de baisse des charges et Roux-de-Bézieux est vendu comme quelqu'un d'extrêmement moderne.
Voilà,
à mon avis, il faut que tout change pour que rien ne change et en cela, il est assez macroniste lui aussi.
Jonathan Boucher-Petersen, pour vous, le MEDEF aujourd'hui, il est encore puissant, est-ce qu'il a le même rôle que sous François Hollande? Parce qu'on avait vu Pierre Gattaz, on ne savait pas s'il faisait de la politique ou s'il défendait des intérêts.
Il a rendu la fonction un peu farfelue, c'est vrai, Pierre Gattaz avec ses pins et compagnie, mais c'est vrai que les grandes lignes de force de Ernest-Antoine Sellière, je crois, Roux-de-Bézieux. Ça reste les vieilles mêmes recettes libérales, ça je suis assez d'accord là-dessus sur le constat. Roux-de-Bézieux, il n'y a que lui qui s'autoproclame moderne. Il n'y a pas grand monde, ni dans le monde de l'entreprise, ni dans le débat public. Il n'y a rien de moderne dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que de fait, il s'est posé comme issu du monde des télécoms. Est-ce que ça fait ça fait pas de quelqu'un de moderne, c'est juste l'industrie de ce siècle, ça paraît juste normal. Donc de fait, il y a une bataille d'image qui s'est faite beaucoup plus que le programme. Je pense qu'on est à peu près incapable de dire ce qui différenciait ces deux candidats. L'un et l'autre issus de la bonne société, l'un et l'autre issus des bonnes écoles, l'un et l'autre issu des bons milieux. Voilà, c'est le MEDEF. Je suis assez d'accord sur le fait qu'en tant que corps intermédiaire, quand on est tout seul à négocier dans le paritarisme, de fait, on pèse plus grand-chose, qu'ils se sont fait marcher dessus à peu près comme les syndicats. Voilà, il y a un enjeu d'image, de reconquête, d'abord vis-à-vis de leurs adhérents, visiblement, si on a bien suivi.
Isabelle Verramasson.
Alors, moi, j'étais très amusée et intéressée par les deux candidats qui se sont serré la main, ou je pense pas à ceux qui sont présentés dans le journal, mais Alexandre Sobo qui a perdu face à Geoffroy Roux-de-Bézieux, et d'un côté, tout de même, la nouvelle économie, l'économie numérique, Virgin Mobile, enfin, Roux-de-Bézieux, et de l'autre côté, l'UIMM, c'est l'ancien comité des forges.
C'est ça.
Donc, c'est-à-dire vraiment la tradition du patron le plus engagé dans un combat réactionnaire, anti-syndical, enfin, et de l'autre côté, des gens qui offrent quelque chose à un autre. Probablement, ils vont faire exactement la même politique qu'ils auraient fait. Mais je me suis dit que sur le plan de l'image et de la communication, on avait le sentiment qu'il se passait quelque chose et qu'il y avait comme ça un passage entre deux mondes, le monde du comité des forges
et
le monde du beurre et en tous les cas du numérique.
Mais il y a précarié en commun, c'est ça qui rassure tout le monde.
Alors, pour ça, Mélanie, est-ce que aujourd'hui, quand on a un président qui se dit, moi, je suis pro-business, on se souvient, c'était Pierre Gattaz aussi dans un élan de modernité incroyable, qui le disait tout le temps, moi, je suis pro-business. Est-ce que finalement, avec Emmanuel Macron, on a encore besoin du MEDEF?
Ouais, d'une certaine manière, ça, de ce point de vue-là, il y a quand même une forme de continuité. Emmanuel Valls, on s'en souvient, avait été à HEC dire au moment de l'université d'été du MEDEF, justement, moi j'aime l'entreprise, oui. Donc c'est pas complètement nouveau. Et ce qui est sûr, c'est que le MEDEF est aujourd'hui en crise parce que, comme le disait Alexandre, tous les corps intermédiaires sont en crise à cause d'une forme d'atomisation aussi de la société. Et c'est le cas aussi du monde de l'entreprise. Il y a une forme d'individualisme qui fragilise parfois le combat syndical, on le remarque dans les entreprises, mais ça se repère aussi dans le monde de l'entreprise où aujourd'hui, vous avez un Français sur deux qui rêve de créer son entreprise, mais une immense majorité des gens qui montent des startups n'adhèrent pas au MEDEF. C'est même pas le monde d'Uber, le MEDEF, c'est le monde d'avant Uber. Et aujourd'hui, du coup, il y a quelque chose d'assez critique au sens littéral du terme, dans le fait que le MEDEF ne représente plus réellement le monde de l'entreprise, comme beaucoup d'organisations patronales.
Il représente les très grosses entreprises, en fait, c'est ça, surtout.
Ou en tout cas, il représente des entreprises du siècle dernier.
Il y a
des formes d'entreprises qui ne sont peut-être
plus... grosses.
Mais je crois qu'on ne peut pas s'en réjouir parce que le paritarisme, la démocratie sociale a besoin d'interlocuteurs qui soient fiables et qui soient représentatifs. Et la crise, en tous les cas, la fragilité du monde syndical en France et la crise actuelle du MEDEF sont, me semble-t-il, tous les deux annonciateurs d'une forme de dégradation encore à venir de cette difficulté à faire vivre la démocratie sociale à l'intérieur de notre pays.
C'est ça, Isabelle Vermasson. On voit en effet que ce soit les syndicats classiques ou le MEDEF, c'est vrai, les corps intermédiaires explosés, c'est grave ou c'est important? Est-ce qu'on peut gouverner comme ça en démocratie sans les corps intermédiaires?
Alors, c'est vrai que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes quand même dans un nouveau monde dont nous avons du mal à mesurer l'influence. Et dans ce nouveau monde, on peut effectivement fonctionner, communiquer sans ces corps intermédiaires. La question, c'est entre la possibilité de le faire et le fait que ce soit une bonne chose positive, c'est difficile de le savoir. Les corps intermédiaires ont aussi bloqué un certain nombre d'avancées. Elles permettent de... ce sont des structures qui permettent de fonctionner, de représenter. C'est aussi des structures qui parfois blessent. Donc moi, je trouve que c'est difficile de savoir ce qui est bon ou pas, en tous les cas pour l'avenir.
Allez, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Le chef de file présumé du groupe d'ultra-droite remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le parquet de Paris fait appel. Cet ancien policier reste soupçonné d'avoir projeté des attentats contre des musulmans en France. Un autre suspect également remis en liberté dans les mêmes conditions. 10 personnes au total sont poursuivies. Nordan Lelandais a réintégré sa cellule en unité psychiatrique près de Lyon. Il a été interrogé ce matin au palais de justice de Grenoble sur l'enquête de la mort de la petite Maïlys, mais aussi l'agression sexuelle d'une jeune cousine. Cette audition a duré 1h30. La France va accueillir environ 80 réfugiés de l'Aquarius et 52 du Lifeline, selon l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces 132 Africains devraient arriver rapidement. Ils répondront aux critères français du droit d'asile et auront, dans un bref délai, ce titre de séjour de réfugié. Une femme devient maire de Tunis. C'est une première. Elle s'appelle Souad Abderrahim, 53 ans, à la tête d'une entreprise pharmaceutique. Le résultat des premières élections municipales démocratiques en Tunisie. C'est la tête de liste du parti islamiste, ce qui inquiète certains opposants. Et puis depuis une dizaine de minutes, la Colombie est opposée à l'Angleterre pour une place en quart de finale du Mondial de foot. Avant cela, la Suède s'est qualifiée 1-0 cet après-midi face à la Suisse.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, c'est un nouveau nom qui est apparu comme ça au grand public. Il s'appelle Geoffroy Roux de Bézieux. Voilà, c'est un peu plus
GRB.
Voilà, exactement, GRB. Voilà, on peut dire ça. Il remplace, alors il succède plutôt à Pierre Gattaz à la tête du MEDEF et Jonathan Boucher-Petersen. Une chose, vous avez dit tout à l'heure, finalement les idées restent les mêmes au MEDEF. À propos de Pierre Gattaz, par exemple, il a décrit récemment la réforme de la SNCF comme une victoire des idées du MEDEF. Est-ce que c'est le cas, par exemple, ça?
Ouais, enfin, ça fait un moment. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord sur le fait que le constat partagé en tant que syndicat et MEDEF, problème de représentativité, problème de rôle. Mais le MEDEF a quand même été sacrément écouté pour un organe peu représentatif ces 5-6 dernières années, quand même. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a même plus besoin du MEDEF parce que d'une certaine manière, ils sont tellement en osmose qu'il n'y a plus besoin du MEDEF pour pousser le gouvernement. Le MEDEF, il constate, il engrange, il salue, parfois il applaudit, il trouve les mots, des formules. Mais formellement, il n'y a même plus de dualité. C'est-à-dire que c'est même pas, les syndicats, en gros, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Et le MEDEF, c'est vous n'avez plus besoin de parler, on exauce. Donc c'est vrai que ça fait un déséquilibre qui est pas bon pour la société.
Alexandre Devecchio.
Non, sur ce déséquilibre. Je partage un peu ce qui a été dit. Effectivement, il y a un conformisme économique depuis des décennies. Je suis pas sûr que ce soit prêt de s'arrêter. Effectivement, la victoire de Macron a été d'une certaine manière le triomphe de ce conformisme. Là, ce qu'il y a de nouveau, et là, je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est que il prétend incarner l'économie numérique. Et alors, vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être mieux que les UMM, c'est plus moderne, etc. Mais dans les forges, il y avait quelque chose de palpable, il y avait un rapport avec des emplois directs. Et là, je trouve que dans cette nouvelle économie que prétend incarner Ruth Béziers, il y a quelque chose d'impalpable qui est vertigineux et presque inquiétant. Il y a un défi de l'avenir qui va être la numérisation du monde, la robotisation avec la disparition des emplois. Je ne sais pas si c'est ça qu'il veut incarner ou pas, mais je crois que c'est une des grandes questions de l'avenir dont devraient s'emparer les politiques.
On a vu aussi avec les mouvements sociaux chez Uber qu'il y avait bien des personnes qui travaillaient. Isabelle Vermasson.
Oui, je voulais dire que j'entendais avant d'arriver ici le numéro 2 du MEDEF, dont j'ai oublié le nom, et j'étais très surprise de l'entendre expliquer qu'il allait avec enthousiasme soutenir le gouvernement. Je m'attendais à ce qu'il y ait une sorte de réflexion, d'hésitation, de langue de bois. Non, il n'y en avait pas du tout. C'était clair. Donc, pour ceux qui se demandent où est Macron et son rapport au patron, là, en tous les cas, il y a effectivement une alliance dont nous venons parler.
Vous vouliez réagir ?
C'est quand même aussi un tout petit peu le signe de l'irrationalité du monde économique. Moi, je suis un littéraire et un professeur de philosophie. J'ai toujours été assez complexé à l'idée que les gens qui font des choses sérieuses sont dans les entreprises. En réalité, cette passion pour le macronisme, elle se fonde sur peu de choses parce que les réformes qui ont été faites dans l'année écoulée, du point de vue économique, sont relativement mineures. Par exemple, la question des charges qui pèsent sur le travail et qui sont vraiment un problème massif pour le recrutement aujourd'hui en France, ces charges-là, elles n'ont pas évolué du tout. Ce qui a changé, c'est qu'on peut maintenant licencier de façon plus facile avec des irrégularités massives sans craindre d'avoir à subir une condamnation excessive. Je ne suis pas sûr que ce soit un très grand progrès pour le droit du travail, mais les problèmes structurels de l'économie de notre pays ne sont pas résolus. Et de ce point de vue-là, je crois que le MEDEF a un rôle fondamental à jouer. S'il veut bien sortir d'un simple rôle de lobbyiste auquel peut-être il s'est parfois enfermé dans les années passées, qu'il a pu jouer d'ailleurs à l'époque de Sélière. Il ne faut pas caricaturer les choses, il y a eu une vraie rupture de ce point de vue-là, parce qu'à l'époque de Sélière, le MEDEF avait une capacité à penser des grands enjeux. Sélière avait fait un travail sur l'avenir du travail, sur l'avenir de l'économie, et je crois qu'il y a vraiment un sujet aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on appelle le travail dans notre pays. De ce point de vue-là, bien sûr, il faut que les contributions soient multiples, mais le patronat a aussi sa contribution à apporter du point de vue de la réflexion.
Allez, en tout cas, on aura bien sûr l'occasion de voir comment ça se passe, puisqu'il est son mandat court sur 5 ans. Allez, seulement, on va parler d'un rapport terrible, c'est seulement un week-end sur 6 de repos et un taux de suicide 36% supérieur à la moyenne nationale. Du matériel hors d'usage, des locaux délabrés, pénurie de munitions qui empêchent les entraînements au tir. Et malgré ces conditions de travail désastreuses, le rapport pointe les 21,82 millions d'heures supplémentaires non récupérées et non indemnisées. Le bilan est désastreux et il concerne les forces de police. Depuis le mois de janvier, une commission d'enquête sénatoriale dissèque le malaise des forces de l'ordre. La phrase d'un sénateur résume à elle seule la situation. La bonne surprise, c'est qu'elle marche encore, la police. La mauvaise, c'est qu'elle tient avec des bouts de ficelle. Un budget de plus de 12 milliards d'euros qui masque donc le malaise des policiers de terrain dont les sénateurs ont demandé l'avis. C'est un malaise grandissant, des forces de l'ordre sous une très grande pression qui pourrait nous faire revivre des mouvements de protestation. On va écouter François Grosdidier, les sénateurs républicains de Moselle. Et il est surtout rapporteur à la commission d'enquête sénatoriale.
On savait bien qu'il y avait des problèmes. Ils avaient été relatés notamment par les policiers en colère. On ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi généralisés. Les heures sup, c'est partout. Le sentiment de frustration des policiers qui se sentent gérer leur carrière par l'arbitraire le plus total, c'est général aussi. Ce sentiment d'inutilité, faute de réponse pénale adaptée, c'est général aussi.
Voilà, François Grosdidier, donc rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale. Jonathan Boucher-Peterson, est-ce qu'il y a des risques de revoir, comme en 2016, des manifestations de policiers?
Oui, il y a toujours des risques. Ils l'ont fait, ils ont tourné le dos à Beauvau dans des circonstances qu'on avait tous notées. Oui, c'est une profession qui est très syndiquée, qui est très motivée, qui sait tout à fait se mobiliser. Après, la façon de balayer, c'est de dire rien de nouveau. Effectivement, toutes ces choses-là, on les a entendues. Hein, effectivement, au fil du temps, on les a entendues dans d'autres contextes pour l'opération Sentinelle. On l'a entendu dans d'autres contextes pour les surveillants de prison. On voit bien que toutes ces professions à qui on demande toujours plus. Là où c'est étonnant, c'est que souvent, rétrospectivement, c'est peut-être le ministre qu'il a le plus aimé, qu'elle critique le plus. C'est-à-dire, c'est les années Sarkozy, cette idée quand même de... Donc, il y a évidemment la poussée administrative, ça c'est un truc depuis 20 ans, il y a pas mal de statistiques qui montrent que les procédures sont de plus en plus complexes à mener sur le plan de la paperasse, quoi. Mais cette culture du chiffre, quand même, qui les a un peu détournés des missions rationnelles pour faire des missions arithmétiques, qui payaient sur le plan de la statistique, ça c'est un discours qu'on entend beaucoup en disant, voilà, recentrez-nous sur ce qu'est notre métier. Visiblement, c'est pas toujours ce qu'est la vie quotidienne des agents.
Alexandre Devecchio.
Oui, il y a certes la culture du chiffre et je partage ce qui a été dit, mais il y a aussi sans doute l'invasion du droit, quoi, des procédures de plus en plus complexes. Il y a aussi un sentiment de travailler pour rien, puisque quand on parle aux policiers, ils nous expliquent qu'effectivement, ils arrêtent des gens, ils font des procédures qui peuvent durer jusqu'à 48 heures et ensuite ces personnes sont relâchées très rapidement. Donc il y a toute la chaîne, à mon avis, qu'il faut interroger. Et ensuite, il y a besoin de moyens. Je crois qu'en France, et ça a été un des défauts de la droite, notamment ces dernières années, c'est de ne plus penser l'État, de ne penser l'État comme quelque chose dont il fallait se débarrasser. Je crois qu'il y a certains secteurs
où il faut mieux
d'État. Pas forcément plus d'État, mais mieux d'État.
Et beaucoup de policiers. On est le pays dans lequel il y a le plus... Enfin, un des pays dans lequel il y a le plus de policiers au nombre d'habitants. Donc, on n'est pas, il n'y a pas un sous-effectif, il y a pas mal de moyens, il y a plutôt un problème, à mon avis, d'insertion aussi de la police dans la société. C'est pas nouveau, là, pardon de le dire, mais c'est vrai que depuis toujours, les Français n'aiment pas leur police. Et ce qui m'intéresse, ce qui me fascine toujours, c'est que il y a des poussées d'amour vers la police, parce qu'évidemment, on s'aperçoit régulièrement que la police prend des risques, meurt pour nous, est là quand on en a besoin, et ça ne retourne pas cette espèce de désaffection profonde qu'il y a entre les Français et la police, et ils en souffrent beaucoup. Et quand à mon avis, dans ces suicides, il y a de la difficulté de vivre avec l'étiquette « je suis un policier dans ce pays ».
Ils estiment, enfin, en effet, être mal aimés, véritablement.
Certains racontent que lorsqu'ils arrivaient, enfin, à une époque, quand ils arrivaient dans un café en uniforme, ils entendaient les insultes, les lazis, les colibets. C'est pas, et ça, c'est quelque chose qui est ancien, et donc sur lequel je trouve qu'on devrait travailler.
Alors, on va y revenir dans un instant sur ce rapport sénatorial sur l'état de la police en France. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Et après avoir fait voler un drone, Greenpeace fait s'écraser un avion radio-commandé sur la centrale nucléaire du Bugey dans l'Ain. Ce petit avion piloté à distance a été délibérément crashé sur un bâtiment sensible, selon l'association écologiste. Les militants souhaitaient démontrer la vulnérabilité de certaines parties de la centrale nucléaire. Le survol de drones ne constitue pas une menace vis-à-vis de la sûreté. Réponse ce soir, EDF. Un adolescent handicapé frappé à coups de barre de fer à Bobigny par une vingtaine d'individus. Il voulait lui dérobé la nuit dernière son portefeuille. Le père de la victime a voulu s'interposer. Lui et son fils sont légèrement blessés. Un suspect de 16 ans est depuis en garde à vue. Pour défendre le consommateur face à l'obsolescence programmée, le gouvernement lance un indice de réparabilité des produits. Il sera lisible sur le matériel électronique et électrique dès janvier 2020. Le but est aussi de réduire la consommation de matières premières et de réduire l'impact environnemental. Alors que le système Autolib bat de l'aile et s'arrêtera définitivement fin juillet dans l'agglomération parisienne, le groupe PSA annonce aujourd'hui le lancement de son système d'autopartage pour les Parisiens, une mise en place au cours du dernier trimestre. Le dispositif comptera au départ 500 voitures électriques des marques Peugeot et Citroën. La victoire de Rafael Nadal cet après-midi à Wimbledon pour son retour sur les terrains après Roland-Garros. Le tennisman espagnol bat l'israélien Doudi Sella, c'est le 127e joueur mondial. La numéro 1 française, Caroline Garcia, éliminée dès le premier tour par la Suisse. Belinda Belcic.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, c'est un rapport terrible, hein, celui de sénateurs qui ont enquêté sur la situation de la police, sur ce malaise. Alors on le sait, hein, il y a un grand malaise dans la police, mais il s'accentue, on a l'impression, mois après mois. François-Xavier Bellamy, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que le rapport n'affiche pas le gouvernement actuel. Hein. Il dit qu'en effet, c'est une situation depuis assez longtemps, mais en fait, on se demande, on voit en effet, comme le disait Jonathan Boucher-Pedersen, c'est pas nouveau, mais on a l'impression que c'est, on continue à constater. Sans véritablement agir. Là, il y a des choses, par exemple, il y a des témoignages, on voit par exemple des portières qui s'arrachent facilement, il y a des équipements qui ne marchent pas. Enfin, ça paraît assez étonnant quand même d'aller jusque-là pour la police nationale française.
C'est assez terrible, bien sûr. Et d'abord, je crois qu'on peut tous dire, et en lisant ce document, on éprouve d'abord ce sentiment-là, notre reconnaissance à tous ceux qui, policiers et gendarmes, travaillent dans des conditions extrêmement dégradées. L'importance de ce taux de suicide, notamment, est quand même un élément.
Je rappelle, c'est 36 terrible. Fois supérieur à la moyenne nationale.
Voilà. Et là, on voit aussi que le policier, le gendarme aujourd'hui font face à tout ce qu'il y a de plus éprouvant dans la société française. Je pense que c'est aussi ça de ça qu'il est question. Vous parlez, on entendait parler à l'instant là de ce fait divers à Bobigny. Être policier, c'est être confronté tous les jours à cette espèce de violence qui traverse la société française aujourd'hui et qui évidemment marque profondément ceux qui sont en première ligne. Ce qui est très frappant, c'est qu'aujourd'hui, on dépense beaucoup, en fait, pour les forces de l'ordre, mais on dépense mal. Et au fond, on revient derrière la question de la politique du chiffre, à la manière dont les policiers, les gendarmes, comme le monde de la défense, par exemple, comme beaucoup de fonctionnaires, se sentent utilisés par le pouvoir politique à des fins d'affichage. Prenons un exemple extrêmement rapide. Au moment des attentats de Charlie, on a changé tous les gilets pare-balles d'un seul coup. On a fait ça n'importe comment en commandant des matériels qui étaient faits sans aucune concertation avec les policiers de terrain. Ça a coûté extrêmement cher. Dans le même temps, des policiers effectivement doivent vivre avec des véhicules hors d'usage, ou bien un officier de gendarmerie qui prend son poste dans quelques semaines me racontait qu'il arrive dans sa caserne de gendarmerie et la chaudière ne marche plus depuis des années, ce qui veut dire que les logements des gendarmes ne sont plus chauffés l'hiver. Il y a quelque chose de délirant.
On dirait les classes
évidemment,
à Marseille.
Dans cet abandon qui est témoigné, alors même qu'on est capable de mettre beaucoup d'argent quand il s'agit de mettre en scène le politique qui, du jour au lendemain, peut dire voilà, j'ai commandé des gilets pare-balles.
On leur réclame beaucoup en plus. C'est ça. Alors c'est pour ça que finalement il y a aussi cette impression, peut-être parfois, que les Français peuvent découvrir une certaine misère parce que on a l'impression qu'on leur demande beaucoup, qu'on les met énormément en avant aussi la police. Alors Alexandre Devecchio, est-ce que finalement il y a aussi une solution C'était Bernard Cazeneuve quand il était ministre de l'Intérieur qui en parlait. C'était davantage de sociétés privée pour la police. Est-ce que c'est une solution, ça, ou pas ?
Je suis très sceptique là-dessus. On est encore là dans des logiques de privatisation, de libéralisation. Je crois que le sujet est trop important. Il s'agit du bien commun pour le confier à des sociétés privées. Je crois qu'il faut au contraire des policiers mieux formés, capables de répondre aux enjeux du présent. Et puis je crois qu'il faut aussi que les politiques prennent conscience que, certes, ça coûte cher d'investir dans la police, mais l'insécurité chronique et structurelle dans ce pays coûte extrêmement cher également. Donc à un moment donné, il vaut mieux investir sur la police, qui est aussi une forme de prévention, plutôt que de laisser aller une certaine forme d'anarchie. Parce que tout à l'heure, on disait qu'ils souffrent d'avoir une mauvaise image. La réalité, c'est qu'ils souffrent de la violence, notamment dans certains quartiers. Je pense qu'on a quand même commencé l'année avec, je le rappelle, une jeune policière tabassée dans une cité, lynchée. On a vu les images, donc on a été obligé de le dire, mais c'est une réalité. Et qu'il faut décrire.
On a été obligé de le dire, on l'a dit, comme on dit beaucoup de choses.
Pour le coup, on a été obligé parce qu'il y avait les images.
On a été obligé, ça c'est encore du fantasme, mais bon, en tout cas, on l'a dit. En tout cas, on l'a dit, on n'a pas été forcé. Non, juste pour dire, parce que quand on rappelle justement ce qui conduit à l'anarchie, ce qui est étonnant, c'est que dans les dernières années, je le redis, ceux qui ont engagé des policiers, c'est la gauche. Ceux qui ont supprimé des postes de policiers, c'est la droite. Ça paraît assez incroyable. Et là, non seulement c'est la droite, mais c'est le premier flic de France autoproclamé et glorifié, Nicolas Sarkozy. Donc c'est vrai que la logique comptable, ce qui s'est imposé à tous, droite comme gauche, il y a quand même encore une part de libre arbitre. C'est-à-dire, si on décide de mettre le paquet sur la police d'un côté, l'éducation de l'autre, ben on voit que dans la police, les budgets ont quand même augmenté. Donc, la société évolue, les demandes évoluent. Il y a un enjeu de mission, il y a l'enjeu d'être une cible, parce qu'on a Viry-Châtillon, autre exemple qui a été assez largement traité. Les policiers attaqués sur le quai de Valmy, autre sujet très largement traité. La violence au moment des lois travail dans le rapport entre forces de l'ordre et population, très largement traité. Ben voilà, cette question, elle est prégnante de façon quasi hebdomadaire dans la vie quotidienne de l'actualité.
C'est ça, ouais.
Donc ça fait vraiment pas partie des sujets qui sont sous le tapis. Simplement, ils sont mal abordés et maltraités par le politique.
François-Xavier Bellamy, vous vouliez...
Oui, juste ce qui est sûr, effectivement, pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, c'est que effectivement, ce que vivent les policiers et les gendarmes est extrêmement difficile, et ça rend d'autant plus scandaleux les injonctions de ce qui ne représente pas, certainement pas la France, mais une petite partie de la société française et qui crie à chaque manifestation que tout le monde déteste la police. C'est vraiment minoritaire, et je crois que ça se manifeste surtout effectivement dans des milieux ou dans des lieux assez précis et assez dramatiques, surtout par les temps qui courent, où effectivement la police paye un lourd tribut à la crise terroriste. Ce que je crois, c'est que pour revenir sur ce que disait Alexandre à l'instant, j'aurais peut-être non pas un désaccord, mais une question. Je le vois comme élu local. Aujourd'hui, La menace terroriste a fait que nous avons considérablement transformé notre rapport à la sécurité. Maintenant, le moindre événement public doit être sécurisé par des dizaines de personnes.
On a montré nos sacs à l'entrée de Radio France, pas des policiers, a priori.
Et là, c'est vrai que ça pose une vraie question sur la manière dont la sécurité est assurée dans notre pays. Je crois qu'il y a une vraie question sur la manière dont notre société assume le risque d'une manière générale, mais aussi, du coup, sur comment nous répartissons la charge de cette sécurisation. C'est vraiment un sujet complexe.
Allez, toute la sécurité la police n'assure pas toutes les questions de sécurité.
Quand on a des événements sur la voie publique, la police est très souvent mobilisée pour faire un travail de sécurisation qui n'existait pas auparavant.
On a dû quand même faire appel à d'autres ressources.
Allez, dans un instant, on parlera de centres pour migrants, mais également d'évaluation gouvernementale. Et oui, aujourd'hui, voilà, tout le monde passe des examens. Voilà le programme Désinformé de France Info, c'est à suivre dans quelques minutes.
C'est Vulco. Pour mon entretien auto, c'est Vulco.
Pour les prix et pour les pros, c'est Vulco.
Pour profiter d'une promo, c'est Vulco.
En ce moment, chez Vulco, cumulez les avantages. Pour l'achat de pneus Dunlop ou Goodyear, jusqu'à 120€ remboursés et jusqu'à 40€ offerts en carte carburant. Avec Vulco, roulez au meilleur prix. Détails dans les points de vente et sur Vulco.com. Offre soumise à condition.
Deux et entretien auto, c'est Vulco.
Suite à un sondage réalisé par le magazine Capital, Vulco a obtenu le label Meilleure Enseigne 2018 dans la catégorie Centre Auto Garage Pneumatique.
Mesdames, messieurs, nous atteignons le pays des pourcentages.
Oh, quelle chance vous avez! Un énorme pourcentage de réduction vient vers nous!
Oh, beau spécimen! C'est un moins 55%, une espèce rare.
Jusqu'au 16 juillet chez SFR, profitez des réductions exceptionnelles du shopping d'été, comme moins 55% sur le forfait Power 50Go à 10€ par mois pendant un an au lieu de 24€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. SFR, enjoy! Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix clé en box sans mobile avec engagement 12 mois. Enjoy, profitez!
France Info Météo, avec CIC et vous, pour ne pas avoir à choisir entre l'humain et le digital. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Encore des orages demain, après un début de matinée plutôt calme et souvent ensoleillé. Ça tournera à l'orage quasiment partout. Seules les côtes de la Manche, la Bretagne et le Sud-Est devraient y échapper. Les orages seront parfois forts du Sud-Ouest au Nord-Est avec de la grêle, du vent. Ça se gâtera davantage en fin de journée et en soirée sur le Sud-Ouest et le Massif Central avec des orages violents, des pluies intenses, de la grêle, de très fortes rafales de vent. Les températures seront comprises entre 15 et 20 degrés le matin, 19 à 22 autour de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 22 degrés à Brest, 23 à Cherbourg, 26 à Nantes, 29 degrés à Lille, Paris, Mulhouse ou Limoges, 31 degrés à Lyon et Toulouse, 33 à Perpignan et 34 degrés à Marseille.
Au large comme sur la plage, les sauveteurs en mer sont toujours prêts à vous secourir. Soyez prêts à les soutenir.
Faites un don aux sauveteurs en mer sur jesoutiens.snsm.org.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Rivet, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Qui est de la Colombie ou de l'Angleterre rejoindra la Suède en quart de finale de la Coupe du Monde de football? Difficile à dire pour l'instant, la rencontre a commencé depuis une demi-heure et Jacques Vendroux toujours 0-0.
Et toujours 0-0 dans ce stade de Moscou, le stade du légendaire club de Moscou, le Spartak de Moscou. Les deux équipes sont toujours à égalité, 0-0, et que ça soit Ospina, le gardien qu'on a bien connu dans le championnat de France de Ligue 1 puisqu'il a joué à Nice, ou encore Pickford, le gardien d'Everton, eh bien les deux gardiens sont sollicités à tour de rôle. Il n'y a pas d'action extrêmement dangereuse de la part de ces deux équipes. Une équipe évidemment colombienne qui veut rentrer dans l'histoire avec Marquez, vous le savez, qui a déclaré forfait, qui est donc forfait, mais en revanche Falcao est là. Et du côté des Anglais, eh bien il y a l'inévitable Kane, qui est l'un des meilleurs buteurs du championnat anglais et qui est surtout l'avant-centre de Tottenham et qui a fait une saison assez exceptionnelle avec son club. En tous les cas, pour le moment, après exactement les 30, bientôt 32 minutes de jeu dans cette première période, les deux équipes, l'Angleterre et l'équipe de Colombie, eh bien, sont à égalité 0-0. Et le vainqueur de ce match, eh bien, affrontera la Suède qui s'est qualifiés tout à l'heure.
Eh oui, Jacques Vendreau, puisque la Suède a éliminé la Suisse par 1-0. À Wimbledon, la Française Caroline Garcia est éliminée dès le premier tour, comme Alizé Cornet et Pauline Parmentier. Le tournoi de tennis britannique qui a davantage réussi aux messieurs ce mardi. Qualification de Stéphane Robert, Gilles Simon et Pierre Hugerbert. Geoffroy Roux de Bézieux prend la suite de Pierre Gattaz à la tête du MEDEF. Il était déjà son vice-président, patron d'un fonds d'investissement, Notus Technologies. Il est aussi au conseil de surveillance de PSA. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, l'a félicité en l'invitant à se retrousser les manches. Un indice de réparabilité sera indiqué à partir de janvier 2020 sur les étiquettes des produits électroniques. Décision du ministère de la Transition écologique pour éviter le remplacement systématique de matériel souvent polluant. 88% des Français changent par exemple de téléphone portable avant que l'ancien ne cesse de fonctionner. Ces statistiques viennent de l'Agence de l'environnement. Cet indice sera une échelle de mesure, mais les critères utilisés n'ont pas encore été définis. Une nouvelle action de l'ONG Greenpeace pour prouver les défaillances de sécurité des sites nucléaires. Des militants ont réussi à faire s'écraser un drone et un avion miniature contre la centrale nucléaire du Bugey dans l'Ain. 20h33 sur France Info, c'est reparti pour les informer. La suite, toujours avec Jean-Mathieu Pernin.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, c'est grignotant des barres énergétiques siglées Les Informés, parce qu'on a toute une gamme de produits dérivés sur franceinfo.fr. Voilà, qu'ils se sont mis en forme. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Jonathan Boucher-Petersen de Libération, également Isabelle Véramasson, directrice du laboratoire communication et politique du CNRS, Alexandre Devecchio du Figaro, également François-Xavier Bellamy, philosophe. Philosophe essayiste, président du mouvement Uni pour servir. C'est un des sujets les plus délicats quand on aborde celui des migrants et des réfugiés, à savoir la rétention des mineurs qui a augmenté de 70% l'an dernier en métropole pour atteindre le niveau record de 304 enfants enfermés avec 147 familles. On a fermé mardi aujourd'hui des associations qui dénoncent l'efficacité, je cite, très limitée de cet enfermement des sans-papiers en vue de leur éloignement. En France, leur rétention est courte. 70% des familles ont été enfermées pour organiser leur transfert. Tandis que a souvent la veille d'ailleurs pour un départ le lendemain, mais les enfants concernés sont jeunes. L'an dernier, la moitié, 52%, avaient moins de 6 ans. Voilà, un quart entre 6 et 12 ans, ajoute le rapport. Les associations tirent donc la sonnette d'alarme afin d'envisager d'autres solutions pour ces très jeunes enfants. On écoute Geneviève Jacques, elle est membre du Conseil national de la CIMAD.
Le gouvernement n'hésite pas à placer, à enfermer des enfants par une application bureaucratique et brutale et inhumaine d'une politique qui veut expulser par tous les moyens, y compris au mépris du respect, alors des droits, du droit international et de l'intérêt supérieur des enfants.
Voilà, Geneviève Jacques, membre du Conseil national de la CIMAD. Alors Isabelle Véramasson, cet enfermement, il est en constante augmentation. Quelques chiffres, il est passé de 106 cas en 2015 à 304 cas en 2017. Et le contrôleur des prisons, lui, recommande d'interdire la rétention des mineurs. On est véritablement dans un sujet, là aujourd'hui, important et qui concerne de société, quoi.
Oui, et on a vu, enfin, c'était intéressant d'ailleurs le fait qu'on a vu à travers les États-Unis comment cette question pouvait se poser d'une manière aussi encore plus dramatique, terrible, lorsqu'elle se posait à l'envers. C'est-à-dire, finalement, comment le fait de ne pas enfermer les enfants posait d'autres problèmes, puisqu'on devait les séparer de leurs parents. Donc, que faut-il faire? Il y a eu le même problème, vous vous souvenez, pendant la Seconde Guerre mondiale, où lorsqu'il y a eu la déportation des juifs français, et, enfin français ou étrangers, d'ailleurs, peu importe, étaient partis, Bousquet avait demandé à ce que les enfants partent avec eux. Ce qui, avec le recul, est apparu comme absolument abominable, puisqu'ils partaient à la mort, alors qu'à l'époque, on pensait qu'il valait mieux qu'ils ne se séparent pas de leurs parents. Et là, donc, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que ces enfants qui sont dans les centres de rétention, est-ce qu'ils sont avec leurs parents?
Oui. Alors là, oui, bien sûr.
Ils sont d'accord, parents. Oui, voilà. Oui, sûr. Donc, non, mais c'est important de le dire, parce que on a le sentiment que lorsque l'on lit les journaux, moi, je les ai relus, un peu systématiquement, et c'est pas toujours clair quand on parle de l'augmentation de 70% du nombre d'enfants. Et qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça ne signifie pas que les migrants, que ces gens qui arrivent en France viennent de plus en plus avec leurs enfants? C'est-à-dire que c'est peut-être une modification de la structure de l'immigration, et le fait que, en emmenant ces enfants, on part dans un projet familial, ou on part dans un, dans une stratégie peut-être aussi qui permet.
Je sais pas si c'est un projet familial exactement. De
si,
partir, c'est,
moi je lisais avant de partir. Ouais, si, avant de partir, je lisais là aussi un article sur les États-Unis. Il y avait là une famille qui venait du Honduras et on a dit au père, écoutez, laissez passer votre femme, on va laisser passer votre femme et ses enfants, mais à condition que vous partiez. Il a dit non, moi je ne veux pas partir, je ne veux pas laisser ni ma femme ni mes enfants. Nous venons ensemble parce que la vie est intolérable au Honduras. Et donc il exigeait qu'on parte tous. Voilà, on est à chaque fois dans des récits qui dépassent la question de est-ce qu'il faut mettre les enfants ou pas en détention. Ouais. La question, elle est la alors, famille. Ouais. Est-ce qu'on c'est peut ça, séparer alors, les enfants et comment faire Isabelle, pour mettre les enfants en prison?
Alexandre Vecchio.
Pour rappeler quelques faits, il faut s'interroger aussi sur la durée de détention. Ça a été dit tout à l'heure, mais c'est pendant des transferts, etc. Mmh. Donc c'est pas forcément des détentions longues avec les familles entières. Ensuite, on est dans la question de du juridique. Et je pense que à un moment donné, il faut se donner les moyens d'appliquer certaines politiques. Par exemple, 85% des gens qui sont déboutés du droit d'asile restent en France. Aujourd'hui, on sait que les opinions européennes sont quand même favorables à une maîtrise des flux migratoires.
Est-ce que c'est la place d'enfants de 6 ans en prison ou pas derrière
contrôle, enfin, c'est des centres de rétention, c'est pas des prisons.
C'est
extrêmement temporaire, c'est avec leur famille. Je crois qu'il faut se donner les moyens de d'appliquer la loi, ne serait-ce que pour les authentiques réfugiés, qu'on puisse les accueillir dans des conditions décentes. Pour le reste, qui est de l'immigration illégale, eh bien oui, l'État détient le monopole de la violence légitime. C'est pas les bisounours. Et donc, l'État doit se donner les moyens d'appliquer
donc
les
lois. Donc on a compris, c'est pas les bisounours. Hein. Juste pour resituer quelques trucs, on parle de 300 enfants. Donc 75% ont moins de 12 ans sur 46 800 personnes placées en rétention. Donc après, moi, je veux bien un discours administratif, c'est la loi, c'est comme ça, force doit rester à la loi, c'est la violence légitime. Ça, on parle pas de ça. On parle de 300 enfants. Est-ce que forcément, c'est ça la politique publique qu'on a envie de mettre en place? Est-ce que c'est ça l'urgence face aux opinions publiques? Puisque si j'ai bien compris, c'est vraiment l'enjeu.
Je crois que ça fait
hein,
partie des enjeux majeurs d'aujourd'hui.
L'opinion publique jusqu'au bout, jusqu'au pire, pas de problème. Ça, chacun sa boussole. Il n'empêche.
Ça s'appelle la démocratie.
Non, c'est les élections, la démocratie. L'opinion publique, juste ça s'appelle la démocratie des sondages. C'est autre chose.
Non mais
c'est autre chose.
Ça ne vous aura pas échappé les résultats électoraux en Europe.
A priori, c'est pas le xénophobe qui a été élu en France. Ça vous aura pas échappé.
Alors oui, je vais
attendre. Non mais c'est juste pour dire, on parle de 300 enfants pour resituer sur 46 800 personnes placées en centre de rétention. Donc la question, c'est pas est-ce qu'on est pour ou contre la rétention, est-ce qu'on est pour ou contre que la loi s'applique. Non, pour le coup, ce que pointe la contrôleure Adeline Hazan, ce qu'elle pointe, c'est l'utilisation abusive pour des raisons de praticité. C'est-à-dire, en gros, dans quel cas, il y a un cadre bien précis dans lequel on enferme des enfants dans des centres de rétention. Et les enfants, ils sont pas coupables de quoi que ce soit. S'ils sont là, c'est parce que c'est plus pratique pour les renvoyer. Non mais c'est ça, c'est simplement ça, plus pratique. Est-ce qu'on enferme 300 enfants, dont 75% ont moins de 12 ans, pour que ce soit plus pratique?
Donc qu'est-ce qu'on
chacun
fait
son choix.
Alors, c'est-à-dire qu'on les
on n'est pas obligé de les enfermer. Non, on n'est pas obligé.
Mais si on ne le fait pas, ils ne seront jamais reconduits.
C'est
justement le problème. C'est une faille que les associations veulent utiliser les enfants pour émouvoir l'opinion et pour que finalement on n'expulse pas les gens, parce que c'est ça qui se passe.
Mais l'émotion, c'est pas grave, c'est le début de l'humanité parfois, Monsieur Debecchio.
Allez, on va continuer à en parler dans un instant. C'est bien, vous allez pouvoir vous exprimer. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Pas le monopole du cœur. 340 000 emplois créés en France l'an dernier contre 200 000 en 2016. Dans le même temps, l'INSEE note 300 000 demandeurs d'emploi en moins. Le taux de chômage en France baisse de près d'un point sur la période. Il est à 9,4%. Cette régression s'explique en partie par le retour de la croissance de l'activité. Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, entendu par les gendarmes, l'élu Les Républicains, était interrogé pendant 7 heures dans le cadre d'une affaire sur le temps de travail des employés du SAMU social. La justice soupçonne qu'un système de faux pointage a été mis en place. La prison de Réau était adaptée pour accueillir un détenu comme Redouane Faïd. La ministre de la Justice se justifie cet après-midi devant les députés. Le responsable de l'enquête précise, lui, que le commando pour l'évasion dimanche dernier était composé de 4 à 6 personnes et une centaine de policiers restent ce soir à leur trousse. Délicate, la préparation de l'évacuation des 12 enfants coincés dans une grotte de Thaïlande avec leur entraîneur de football. Les secouristes ne pensent pas commencer l'intervention avant demain. Des médecins ont rejoint les enfants, mais le niveau de l'eau reste beaucoup trop important dans la cavité. Et puis la mairie de Paris va interdire la cigarette dans certains de ses parcs. Il s'agira en tout cas, dans un premier temps, d'une expérimentation. Les maires d'arrondissement devront se porter candidats pour choisir un lieu où il sera interdit de fumer et de jeter son mégot. À Strasbourg, la mesure est déjà en place depuis quelques jours dans tous les jardins publics et l'amende devrait atteindre dès le mois de janvier les 68 euros.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, ils sont 304 enfants enfermés avec 147 familles, notamment deux migrants. Les associations s'interrogent sur l'efficacité et l'intérêt d'enfermer ces enfants. François-Xavier Bellamy, c'est vrai que c'est aujourd'hui une question véritablement qui se pose. On se souvient d'ailleurs des tensions au sein de la majorité lors de l'examen de la loi Asile et Migration sur ce sujet.
Bien sûr, c'est une question importante, mais je voudrais juste revenir à quelques considérations très, très simples. Est-ce que tout le monde a le droit de venir vivre, habiter dans un pays s'il le souhaite? La réponse est non. Il y a des règles qui s'appliquent dans tous les pays du monde. Est-ce que des gens qui sont déboutés du droit d'asile, c'est-à-dire qui vivent dans des pays où ils peuvent vivre en sécurité, ont le droit pour autant de rester en France même s'ils ont des enfants? La réponse est non aussi. Donc il faut organiser dans les meilleures conditions leur retour dans leur pays s'ils n'ont pas droit à l'asile. C'est tout à fait basique. Aujourd'hui, nous avons des centres de rétention qui ne sont pas des centres de détention, mais c'est vrai qu'ils sont dans un état de délabrement épouvantable.
Quand on fait des reportages sur place,
c'est épouvantable. On est d'accord. On est d'accord. Donc la question est comment faire en sorte,
ça veut dire quelque chose,
comment faire en sorte que les familles qui sont en France et qui n'ont pas vocation à y rester parce qu'elles n'ont pas droit à l'asile, que leur pays est sûr, comment faire en sorte que leur retour dans leur pays s'effectue dans les meilleures conditions? Mais je crois qu'il faut savoir raison garder. Nous ne parlons pas de détention, nous parlons de rétention. Et faire une comparaison avec des enfants déportés de confession juive pendant la Seconde Guerre mondiale paraît complètement hors de propos, pardonnez-moi.
C'est la séparation entre les parents et les enfants. L'humanité apparente n'est pas toujours de l'humanité.
Alors ça, de ce point de vue-là, je suis entièrement d'accord avec vous. J'étais juste choqué par la comparaison parce qu'elle est tellement disproportionnée que ça paraît un peu incroyable. Mais je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Et je dirais, pour terminer, que la question migratoire est une question tragique, bien sûr, extrêmement, extrêmement complexe. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes devant un risque majeur qui est celui d'instrumentaliser la situation des enfants, des mineurs en général, dans cette question migratoire. Et je voudrais simplement revenir sur un dernier point.
On ne peut pas l'esquiver au regard d'enjeux plus importants.
Je voudrais revenir sur un dernier point très rapide. Le gouvernement vient de transposer, à la faveur de la loi Asile et Immigration, une directive européenne qui prévoit que tout mineur arrivé seul en France a le droit au regroupement familial. Ça, c'est un cas typique de cette fausse humanité que vous évoquez si bien à l'instant. Parce que, de ce point de vue là, nous savons très bien que nous allons organiser une forme de compétition ou en tous les cas d'attraction immense pour des enfants qui vont être envoyés par leurs parents.
Quand on voit la natalité en Afrique, toujours des attractions. On nous parle tout le temps d'attraction, attraction, attraction. Et là,
mais c'est gigantesque. Regardez l'évolution du taux de natalité en Afrique. Vous savez que si un seul de vos enfants mineurs arrive en France,
l'essentiel des Africains quittent l'Afrique pour rester au sud.
Toute la famille.
L'essentiel des migrations, elles sont sud-sud. Les vrais enjeux, c'est ça.
Aujourd'hui,
on parle d'agrandir la
population.
On est parti de 300 enfants dans les centres de rétention français et on va finir dans la Méditerranée.
Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que le cas des enfants risque d'être exploité et instrumentalisé
peut être réglé aussi,
un débat qui, en réalité, est souvent l'occasion de faire preuve de bons sentiments qui, malheureusement, sont à leur détriment.
Une petite chose,
c'est pas vraiment à la mode, les bons sentiments sur cette question.
À propos de centres d'accueil des migrants, on sait que le sommet européen de la semaine dernière, où il y a eu un accord, finalement, à la fin, enfin, soi-disant un accord, il y aurait donc des centres d'accueil pour migrants pour les pays. Alors, Emmanuel Macron a dit « Moi, je suis pour ». Mais pas en France. Est-ce que c'est parce que lui il dit nous ne sommes pas primo arrivants, sans penser que l'accord c'était en France d'ailleurs. Est-ce que c'est un peu hypocrite ou pas de la part du président de la République de dire c'est pour l'Italie, c'est pour la Grèce, c'est pour l'Espagne, mais pas pour la France?
Oui, ça tombe bien. Au moment où j'avais été quand même un peu sidérée à quel point Emmanuel Macron avait attaqué l'Italie, alors que effectivement l'Italie doit régler ce problème-là, alors que lui il ne proposait absolument aucune mesure. Alors maintenant il y a un petit marche arrière puisqu'il propose de prendre un certain nombre de migrants, mais c'est complètement hypocrite et c'est surtout une manière constamment de botter en touche. C'est-à-dire qu'on voit bien que chaque État est en train de botter en touche en trouvant des solutions qui les toucheraient le moins possible. Et en fait, une solution qu'ils ont, c'est toujours de payer l'autre pour récupérer ces migrants.
Notamment
Turquie,
exactement.
Et l'Italie qui avait récupéré un peu d'argent et qui du coup a trouvé que c'était un peu moins grave qu'au départ. Enfin, on voit bien qu'il y a là quelque chose que personne ne sait régler.
On paye nos égoïsmes. On paye le côté chacun veut être accord avec son opinion nationale dans le chacun pour soi et à l'arrivée voilà aujourd'hui on est dans une réalité où les flux migratoires sont revenus au niveau quand on est revenu à des niveaux où les flux migratoires sont beaucoup moins une question quotidienne par l'arrivée en Italie, on l'a vécu en 2015, on l'a vécu en 2016, c'était très impressionnant, sauf que c'est l'égoïsme de tous les pays européens à cette époque-là qui provoque l'arrivée de Salvini. Les opinions publiques, elles sont pas dures comme ça par nature, elles sont dures parce qu'on a laissé en première ligne seul
Alexandre Devecchio. Qu'est-ce que vous pensez, juste pour terminer terminer sur ce sujet. Aujourd'hui, que la question n'est plus migratoire, mais politique, comme disent certains. En effet, on voit une pression migratoire qui a descendu véritablement par rapport à 2015 et qu'aujourd'hui, c'est une question politique.
Pardonnez-moi, c'est une rhétorique médiatique. La question migratoire est une question migratoire et pas une question
politique. Il y en a juste beaucoup
moins,
ça s'appelle des chiffres.
Genre 250 000 titres de séjour, immigration légale en France. De 300 000, enfin, c'est des chiffres qu'on dit environ, mais puisqu'on peut difficilement les mesurer, mais d'immigrés illégaux et qui ne sont pas reconduits en France. Tout ça, vous ajoutez ça à une crise de l'intégration qui dure maintenant depuis des années, parce que la réalité, c'est que les populations, elles sont pas manipulées. Mmh. C'est pas des enfants, les populations. Elles voient les choses, elles habitent dans certains quartiers où il y a des crises de l'intégration, qu'il y a des problèmes d'insécurité majeurs, et elles se disent, pour l'instant, voient à long terme, et se disent, on veut, le vivre ensemble ne fonctionne plus en France.
On sait vraiment que l'insécurité, ce sont des sans-papiers.
Mais je pense que c'est lié, c'est une question d'insécurité.
Souvent, quand vous êtes sur papier, c'est compliqué. Hein,
mais c'est une question, oui, mais l'insécurité, c'est quand même lié à une crise de l'intégration d'une immigration qui n'a pas su s'assimiler. Et ça, tout le monde le voit. Et les opinions publiques, je suis désolé, veulent que ce problème-ci soit réglé avant d'accueillir d'autres personnes. C'est tout.
Alors, François-Xavier Benhamy, pour terminer.
Ce qui est certain, c'est que je ne crois pas, pour reprendre le dialogue qu'il y avait tout à l'heure et qui est fondamental, je ne crois pas qu'une bonne politique puisse se faire uniquement avec la boussole de l'opinion publique. Effectivement, il y a des choses qui sont ressenties par une majorité de la population et qui peuvent être scandaleuses, injustes, lamentables et contre lesquelles la conscience oblige de lutter. Ce que je crois en revanche, c'est que on ne pourra pas insulter indéfiniment les gens qui pensent que effectivement la question migratoire est une question complexe qui mérite d'être traitée avec autre chose que des bonnes intentions et des mises en scène de bons sentiments. Je suis d'accord avec vous que l'exigence,
c'est une question
européenne fondamentale.
Regardons un peu les chiffres. Regardez qui vit la réalité de l'immigration. Arrêtons de nous regarder le nombril. Franchement, ouvrons les yeux et aidons-nous peut-être.
Elle n'a pas commencé hier.
Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas
s'arrêter à la seule considération du fait que les flux ont baissé récemment. Ce qui est en jeu, c'est la question de notre avenir collectif. Et quand on voit les mouvements qui vont se faire avec le développement de la natalité en Afrique, on voit bien qu'on est devant des enjeux qui sont infiniment complexes, qui nous regardent tous et qui méritent d'être traités avec considération.
Et les flux augmentent de nombre.
Sinon, on pourra se plaindre de la montée des populismes.
Mais chacun pour soi ne sera pas une solution.
Pas tous ensemble.
On est bien d'accord.
Pas tous.
Pas tous ensemble.
Visiblement.
Simplement un détail. Les flux ont augmenté ces 10 dernières années quand même. Puisque il y a une rhétorique comme ça de dire l'augmentation, l'immigration n'augmente pas, c'est faux.
Enfin, les spécialistes
ensuite il y a la question des réfugiés que moi je veux bien entendre, mais qui serait traité beaucoup plus facilement s'il n'y avait pas ce problème structurel d'immigration et le sentiment que quand on arrive en Europe, quand on met le pied en Europe, ensuite on ne peut plus être expulsé.
Comme les boat people, par exemple, dans les 70.
Oui, mais le contexte était pas le même. La France n'était pas le même. Ces populations se sont bien intégrées. Je suis désolé. Il y a des précédents. Là, il y a un malaise identitaire, appelons-le comme on veut en France.
Et
on va falloir arrêter de traiter cette question comme un fantasme. C'est pas un hasard si on a des résultats électoraux.
On peut mettre un peu plus de nuance.
Il y a des gens un peu inquiets par la vie,
mais ça, c'est
non, monsieur. Arrêtez d'insulter les gens. C'est pas des paranoïaques. Les gens
je vous trouve un peu paranoïaque,
ils ont des problèmes,
c'est pas une insulte.
Mais il se trouve que moi j'ai vécu dans ces quartiers-là et aujourd'hui il y a des soucis et que pour la grande question du vivre ensemble, du bien commun,
c'est pas les migrants, ça,
je pense qu'il faut traiter cette question sérieusement et surtout ne pas culpabiliser les gens qui pour le coup accueillent les immigrés.
Mais on n'est pas obligé toujours d'appuyer sur le truc un peu.
Voilà, on aura bien sûr l'occasion d'y revenir dans un instant. On parlera évaluation aussi. Voilà, c'est autre chose, une autre ambiance. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Sécurité, mais aussi culture au programme de la visite d'Emmanuel Macron au Nigeria. Après la Mauritanie, le président de la République poursuit sa tournée en Afrique pour évoquer la lutte contre le terrorisme. Le Nigeria est au cœur de l'insurrection djihadiste de Boko Haram. Le président français est également attendu à Lagos, mégapole de 20 millions d'habitants, entre concerts et défilés de mode. Le 14 juillet prochain, la France mettra à l'honneur le Japon et Singapour pour le défiler. Emmanuel Macron invite les premiers ministres des deux pays. L'an dernier, c'est Donald Trump et son épouse qui avait répondu à l'invitation du président fraîchement élu. Deux châteaux de Gironde viennent d'être renvoyés en correctionnel, les suites d'un épandage de fongicides près d'une école. Une vingtaine d'enfants et une enseignante d'une école primaire avaient été pris de malaise en mai 2014 avec des picotements aux yeux ou encore des maux de gorge. Le MEDEF s'est choisi ce matin un patron techno. Geoffroy Roux de Bézieux succède à Pierre Gattaz avec presque 54% des suffrages. À 56 ans, il est fondateur d'entreprise de la nouvelle technologie. Il entend accompagner les mutations technologiques pendant son mandat, également améliorer le dialogue social. Et puis toujours 0-0 entre la Colombie et l'Angleterre en 8e de finale du mondial. Pour l'instant, c'est la mi-temps. La Suède s'est qualifiée cet après-midi au détriment de la Suisse d'un petit but à zéro.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on va terminer cette émission par parler examen, parce qu'on soit ministre ou étudiant, quand on rate ses révisions, on rate ses examens. Hein, c'est pas faux, François-Xavier Damien, vous qui êtes professeur. Hein. Voilà, ça ne manque pas. Alors que le Premier ministre a lancé une grande série de consultations afin d'évaluer l'action de ses ministres, Jacqueline Gourault est mal, mais vraiment, elle est mal. Hein, parce que la ministre au ministre de l'Intérieur est en charge des discussions sur le dossier Corse. Et elle a évoqué ce matin sur France Inter les prisonniers corses comme des prisonniers politiques. Et ça, c'est un terme cher aux nationalistes, donc ça va pas du tout. Donc ça sent mauvais pour ton évaluation. On est avec toi, Jacqueline, courage en tout cas. Le premier à passer était Jean-Michel Blanquer, puis ce sera Gérard Collomb et Nicolas Hulot. Le but, on nous dit, n'est pas de sanctionner, mais de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Bon, quand un manager dit ça, ça se termine jamais très bien, mais en tout cas, ça va être super, on nous le garantit. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.
On ne peut pas demander à un gouvernement d'être plus efficace, de faire du management, de s'inspirer parfois de ce que font les entreprises pour évaluer, faire du reporting, etc. Et quand on se plie à l'exercice et qu'on essaie de le cadrer, eh bien, s'en moquer. Moi, je suis heureux qu'on puisse être évalué, voilà les objectifs qui avaient été fixés.
Mais
voilà,
si l'évaluation est mauvaise, que se passe-t-il dans une entreprise?
Ça, c'est
que
au Premier ministre, au président de la République d'en décider, et ça n'est certainement pas
porte-parole
du gouvernement.
Voilà, Benjamin Griveaux ce matin sur BFM avec Jean-Jacques Bourdin qui est d'accord, en tout cas. C'est important cette évaluation, Isabelle Vera-Masson, ou c'est de la com?
Non, c'est vraiment de la com. Ouais. D'ailleurs, c'est mise en scène.
Ah oui.
Et en plus, c'est une mise en scène. Le fait d'être mise en scène montre que c'est de la com. Et aussi, le fait qu'il y ait déjà eu ce genre de choses, parce qu'on se souvient que Nicolas Sarkozy avait fait exactement la même chose.
François Fillon le proposait dans son programme.
François Fillon
également.
Aussi. Donc, c'est une tradition maintenant. Donc, on n'a pas eu besoin d'attendre la Startup Nation pour faire de l'évaluation. Mais c'est quand même très intéressant sur le plan de la com et de la et politique, parce que on voit bien qu'on continue à raconter une histoire qui est le storytelling, qui est l'histoire de l'efficacité, qui est l'histoire des résultats, qui est l'histoire du on est pragmatique, on fait pas de la politique, on fait simplement on accomplit un programme qui va marcher. Et donc chacun va participer à cette histoire, à cette évaluation. Et mais bien sûr on n'est pas méchant, hein, ça fait partie aussi de l'histoire et on ne sanctionnera personne. Et je tiens à dire qu'ils ne seront pas non plus augmentés s'ils travaillent bien.
C'est ça. François, il y avait l'ami pour
c'est
vous.
Comme c'est quoi?
Ça sert à quelque chose ou pas? Parce qu'on sait que Édouard Philippe a dit non, mais il n'y aura pas de sanctions. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Est-ce que c'est important, finalement, d'appliquer ces méthodes d'entreprise aussi, finalement, au monde politique?
Il y a quelque chose de vraiment dérisoire dans la mise en scène d'un discours managérial qui finit par envahir, y compris le monde politique. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez grave aussi au fond. Dans cette idée d'entretien d'évaluation, il me semble pas que la droite l'avait mis en œuvre de la même manière. Je crois qu'il y avait l'idée de faire un bilan ou un point sur l'action gouvernementale, mais l'idée d'un entretien d'évaluation, au fond, il faut bien se souvenir que c'est d'abord, pour parler comme des professeurs, d'une auto-évaluation, parce que le gouvernement est en train de s'évaluer lui-même. Or, le seul qui peut évaluer l'action gouvernementale, c'est le peuple français. Et là, il y a quelque chose d'assez grave dans l'idée qu'au fond, on attend de l'expert qui est le président de la République, notre expert en chef, qu'il nous dise la qualité du travail que font les ministres. Mais les citoyens français sont les seuls à faire passer au gouvernement un entretien d'évaluation. Ça s'appelle les élections et ce sera dans quelques années.
Et c'est ça, Alexandre Devecchio, le gouvernement, finalement, c'est pas une petite entreprise?
Ouais, moi je propose qu'on fasse des open space à la place des bureaux des ministres, et ensuite qu'on leur fasse des comptes Facebook avec des likes, etc. Non,
ça,
c'est ridicule.
Ça.
On est dans le. On est dans le ridicule, mais parfois inquiétant, effectivement, de cette idéologie managériale qui est la négation même du politique. Moi, je préférais quand on avait. Alors, certes, Emmanuel Macron est un traumatisé du hollandisme où effectivement il y avait des luttes d'ego, des couacs, mais je préférais des hommes politiques avec des réelles visions politiques. En fait, de quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement de la dépolitisation de la politique et de transformer la France en entreprise. Or, la France n'est pas une entreprise, c'est des hommes et des femmes, c'est une grande histoire. Et voilà, je préférerais des politiques qui aient une vision plutôt, qui soient dans cette idéologie managériale un peu grotesque.
J'attends, M. Petersen, vous, aujourd'hui, à Libération, vous êtes intéressé à Nicolas Hulot, et c'est pas un hasard, parce que ça sera jeudi son évaluation, et c'est lui que l'on attend, forcément. Parce que lui qui a menacé, peut-être, on ne sait pas, de quitter le gouvernement cet été, c'est vraiment lui, en fait, sur lui, c'est pas tant Blanquer que Gérard Collomb.
Mais là où il y a un biais original, c'est que normalement, quand on évalue, on sait quel était l'objectif. Oui. Formellement, on serait bien incapable. Nicolas Hulot, qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est quoi l'objectif? C'est, on est dans totalement autre chose. C'est-à-dire qu'on est dans la mise en scène, effectivement, de dire, voilà, on a fait le bilan, énormément de choses ont été faites. Maintenant, on a un vrai enjeu, c'est la conduite du changement. C'est-à-dire que les choses ont été décidées. Maintenant, il faut que les Français le ressentent. Il faut que la mise en place de la réforme, c'est notre vrai défi. Ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup à droite sur l'idée. On a beaucoup promis l'enjeu. Enfin, Romain Rivaton est venu le dire ici plusieurs fois. L'idée, c'est la capacité, maintenant, à faire concrètement changer les administrations, changer au-delà de la décision politique. Après, oui, effectivement, nous, enfin, chacun, je pense, est assez clair sur ceux dont il a toujours pas connu la tête, ceux qui n'ont fait que des couacs, ceux qui jouent. Après, la différence avec avant, c'est qu'il n'y a pas de poids lourd, effectivement. Moi, je suis assez d'accord. Avant, il y avait une forme d'équilibre, et on pouvait y voir clair un peu dans la façon dont le gouvernement était en train de bouger, parce qu'on faisait rentrer un centriste, parce qu'on faisait rentrer un libéral, parce qu'on... Là, à part le duo de droite, le maire Darmanin, qui passe son temps à se manger un peu la chic, l'un se vivant comme le Lancelot du Lac, l'autre comme le gaulliste social revendiqué. Enfin, bon, chacun, ils ont des agendas différents. On sent bien que s'il y en a un qui rebondit au Quai d'Orsay, l'autre à Beauvau, ils seront quand même très contents à l'arrivée. Mmh. Et autour de ça, il y a des Romano Prodi, quoi, des feuilles de mission qu'on connaît pas. Voilà, donc c'est un peu bizarre. Moi, s'il y avait vraiment une évaluation en disant, fixé tel objectif à ma ministre de la Justice, et aujourd'hui, on en est là, et on le fait publiquement, sans que ça tombe dans un pilori débile, mais voilà, qu'on y voit un peu clair sur l'objectif.
Et ça permettra peut-être à Édouard Philippe de connaître enfin tous ses ministres.
Et parce qu'il y a certains ministres qu'on n'a pas. Voilà, qui évalue aussi... Édouard Philippe, c'est la question.
C'est ça. Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup, François Xavier Bellamy, d'être passé ce soir aux informés de France Info. Merci, Isabelle Véramasson. La une du Figaro.
Je ne l'ai pas.
Ah, vous l'avez pas. C'était la surprise du soir.
Attendez,
merci.
J'ai un gros bug.
Alors,
j'aurais une mauvaise note à mon évaluation. François,